VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui en ce jeudi 29 mars 2018. Au micro, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
À la une ce matin, Anne.
En Centrafrique, tension au PK5 à Bangui. Un groupe armé se dit prêt à se battre contre la MINUSCA.
Le Pentagone confirme la mort de deux hauts responsables d'Al-Qaïda en Libye.
Les États-Unis exhortent les autres pays membres de l'ONU à payer plus pour les casques bleus.
Dans la partie magazine, réaction à la décision de Kinshasa de poursuivre l'opposant Katumbi pour usurpation d'identité.
Moïse Katumbi est un candidat sérieux et le principal adversaire de Joseph Kabila et de sa famille politique. Ils ont donc monté des dossiers.
Et également au sommaire, vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sport.
En République centrafricaine, le principal groupe armé du quartier musulman de Bangui a affirmé hier être prêt à se battre contre la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSCA, qui a menacé de désarmer ces groupes. Si les forces de la MINUSCA veulent la guerre, ils n'ont qu'à dire aux populations de quitter le quartier et on va se battre, a déclaré Nimeri Matar Djamous, leader d'un des principaux groupes armés du PK5, poumon économique de la capitale. D'après plusieurs habitants, la MINUSCA a fixé dimanche un ultimatum aux groupes armés du quartier pour désarmer, sinon leurs bases seront démantelées de force. La MINUSCA n'a pas souhaité commenter cette information. Le 21 mars, l'ONU en Centrafrique avait dénoncé les pratiques mafieuses de ces groupes armés. Ils doivent comprendre que le temps est venu de cesser leurs pratiques violentes et frauduleuses, avait déclaré Hervé Verroussel, porte-parole de la MINUSCA.
En République démocratique du Congo, 10 militaires et 28 assaillants ont été tués en Ituri, dans le nord-est, depuis début février et le lancement d'opérations après des tueries de civils. C'est ce qu'a indiqué hier un porte-parole de l'armée. Selon le lieutenant Jules Ngongo, 13 assaillants ont été remis à la justice militaire. Il a donné 48 heures aux autres assaillants pour déposer les armes, sous peine, dit-il, d'une attaque foudroyante de l'armée. Plus d'une centaine de civils ont été tués depuis début février en Ituri, une province riche en or.
Au Niger, la justice a ordonné hier la réouverture de la radio-télévision privée La Barry. Celle-ci avait été fermée dimanche soir suite aux violences de dimanche entre les policiers et des manifestants qui tentaient de protester contre la loi de finances 2018. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, avait accusé la chaîne d'avoir appelé les gens à sortir et d'avoir passé un message subversif de révolte. Réaction à cette décision judiciaire de Ima Garba, directeur administratif du groupe de médias La Barry à Niamey.
C'est une décision qui me réconforte un peu dans notre lutte parce que la justice a dit que la fermeture est illégale et non fondée. Et le référé demande l'ouverture dans les minutes qui suivent.
Est-ce que cela a été suivi des faits?
Non. Avant même la décision de la justice, il y a le Conseil supérieur de la communication qui s'est prononcé, qui a demandé aussi au ministre de l'Intérieur de retirer ses troupes immédiatement. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à 19h-20h. Quand j'ai quitté, ils sont encore là parce que quand nous, l'huissier leur avait brandi la grosse de la justice, ils ont tout simplement rétorqué que eux, les décisions de justice ne les concernent pas. Ce n'est pas la justice qui les a mis là-bas, ce n'est pas la justice qui va les retirer là-bas. Donc ils attendent le mot de leur hiérarchie.
Des propos recueillis par Timothée de Nangmaï.
Deux généraux de l'ex-président gambien Yahya Jammeh, qui l'avaient suivi en exil avant de retourner dans leur pays en janvier, ont été inculpés de désertion et seront jugés la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé hier le porte-parole de l'armée. Des détails avec Irénée Herman Ungbo.
Les généraux Ansoma Natamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, sont poursuivis pour désertion de poste selon le commandant Lamine Saniang. Porte-parole de l'armée, il a cependant indiqué que les deux hommes seront jugés en cour martiale à partir du 4 avril 2018. Comment ont-ils pu quitter l'aéroport pour se rendre à leur domicile respectif où ils ont été arrêtés, s'interroge le chef d'état-major de l'armée gambienne, le général Massane Kente, sans expliquer les raisons de leur retour. Le président Adama Barrow, peu après, a qualifié l'incident de sonnette d'alarme, affirmant qu'il avait abouti à la suspension des responsables des services d'immigration.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le commandement des forces américaines en Afrique a confirmé hier la mort de deux hauts responsables terroristes d'Al-Qaïda en Libye. Abdourahman Zia pour les détails.
Le gouvernement d'union nationale libyen avait annoncé un raid des forces américaines qui a visé une réunion des responsables terroristes dans une maison dans la région d'Oubari, à quelques 1000 km au sud de Tripoli. AFRICOM, le commandement de la force américaine sur le continent, confirme la frappe et précise qu'il s'agit d'une opération de précision qui a permis de tuer deux chefs djihadistes, dont Moussa Abu Daoud, un haut gradé d'ACMI affilié à Al-Qaïda. La force américaine précise dans un communiqué transmis à VO Afrique qu'aucun civil n'a été tué. Moussa Abu Daoud était chargé de l'entraînement des recrues d'ACMI en Libye pour mener des attaques dans la région, selon l'AFRICOM. Il a fourni une indispensable aide logistique, des fonds et des armes à ACMI, permettant aux terroristes de menacer des intérêts américains et occidentaux dans la région, précise encore le communiqué. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices alors que deux autorités se disputent le pouvoir. D'un côté, le GNA, reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, et de l'autre, une autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du maréchal Khalifa Haftar.
Libye toujours, première réunion de réconciliation entre deux importantes villes rivales. Des représentants de Zentan et de Misrata, qui comptent les groupes armés les plus puissants de l'ouest du pays, se sont retrouvés hier pour la première fois depuis les combats meurtriers qui les ont opposés en 2014 pour le contrôle de Tripoli, la capitale. La réunion a été qualifiée d'historique. Dans leur communiqué final, les deux camps soulignent la nécessité d'unifier l'armée et la police sous une autorité civile et de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Misrata et Zentan étaient parmi les premières villes à se soulever contre le régime de Muammar Kadhafi en février 2011.
En Égypte, les premières estimations sont attendues aujourd'hui après trois jours du scrutin présidentiel. Le taux de participation est le seul véritable enjeu pour le président sortant Abdel Fattah al-Sissi, assuré de l'emporter, faute d'adversaires crédibles. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril, mais des estimations partielles devraient être publiées dès ce jeudi par la presse locale. Les trois jours d'élection se sont déroulés sans incident notable, sous la protection ostensible des forces de sécurité, après un attentat samedi dernier à Alexandrie, dans lequel deux policiers ont été tués.
Nikki Haley, la représentante des États-Unis à l'ONU, a appelé hier les autres pays membres des Nations Unies à faire mieux et à payer une plus grosse part des opérations de maintien de la paix. Claire Morin-Gibourg.
Un seul pays ne devrait pas avoir à payer pour un quart du budget de maintien de la paix de l'ONU. Et nous sommes impatients de voir une distribution plus équitable, a déclaré Nikki Haley, qui a déjà négocié une baisse de 600 millions de dollars des fonds pour les casques bleus. Les États-Unis vont rester le plus important contributeur au budget de maintien de la paix de l'ONU, mais l'administration Trump a décidé de plafonner ses versements à 25% du total. Après des négociations très difficiles, le budget 2017-2018 pour ces opérations a été fixé à 6,8 milliards de dollars. Cette réduction de la contribution américaine arrive en même temps que la tentative de modernisation des missions des casques bleus par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les plus importants contingents déployés en République démocratique du Congo, au Mali, en Centrafrique et au Soudan du Sud ont beaucoup de mal à protéger les civils pris dans des combats. Et la crédibilité et la réputation des missions ont aussi été ternies ces dernières années par les révélations de nombreux abus sexuels.
Le président américain a remplacé son ministre des Anciens Combattants hier en annonçant le nom de son remplaçant, le médecin militaire de la Maison-Blanche, sur Twitter. Donald Trump a écrit avoir l'intention de nommer Ronnie L. Jackson, docteur en médecine, pour succéder au docteur David Shulkin. Robert Wilkie, un responsable du Pentagone, assurera l'intérim à ce ministère en attendant que l'amiral Jackson ait l'approbation du Congrès. Les révélations de gestion désastreuse abondent depuis plus d'une décennie au ministère des Anciens Combattants.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un doit rencontrer le 27 avril le président sud-coréen Moon Jae-in, un sommet qui doit précéder un face-à-face historique avec le président américain Donald Trump en mai. Des délégations sud- et nord-coréennes se sont rencontrées aujourd'hui dans le village frontalier de Panmunjom, dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule. La détente fait suite à deux années d'escalade due au programme balistique et nucléaire nord-coréen, avec en toile de fond des échanges d'insultes personnelles et de menaces apocalyptiques. apocalyptique entre messieurs Trump et Kim.
Premier retour du Nobel de la paix Malala Yousafzai dans son Pakistan natal depuis 2012, lorsqu'elle avait échappé pour la deuxième fois à une tentative d'assassinat par les talibans pakistanais alors qu'elle rentrait de l'école. Malala Yousafzai, qui poursuit aujourd'hui des études à l'université d'Oxford en Angleterre, devrait notamment rencontrer le premier ministre pakistanais Shahid Khaqan Abbasi durant cette visite de 4 jours.
Au Venezuela, 68 personnes sont mortes dans un incendie présumé dans un commissariat de Valence dans le Nord. Une ONG a fait, elle, état d'une mutinerie de dizaines de détenus. Une vidéo diffusée sur Twitter montre des dizaines de personnes massées devant le commissariat de police, réclamant des informations et des femmes en pleurs. La police lançait des grenades lacrymogènes pour les disperser. La surpopulation dans les prisons du Venezuela oblige les forces de l'ordre à utiliser les commissariats comme lieu de détention de longue durée, alors que selon la loi, la détention ne peut excéder 48 heures dans ces locaux. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Nous passons maintenant à l'actualité économique. C'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Au Sénégal, les femmes rurales veulent des assises nationales sur l'agriculture et l'accès au foncier. D'après Nyo Kumbaye, présidente de la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal, des pesanteurs socioculturelles plombent les efforts de la femme rurale pour assurer son autonomie économique. La Banque du Ghana a réduit ses taux directeurs de 200 points de base pour les ramener à 18%. Il s'agit du niveau le plus bas en 4 ans. Le gouverneur de la banque, Ernest Addison, a dit que les chiffres encourageants de l'inflation dans le pays ont motivé la décision. Depuis 2016, la Banque du Ghana a réduit ses taux directeurs de 800 points de base. En Tunisie, la carte numérique du domaine public foncier et mobilier est déjà fonctionnelle et accessible au grand public. Ce nouvel instrument permettra de rendre les services fonciers plus accessibles aux populations et d'optimiser la gestion du foncier tunisien pour assurer sa bonne gouvernance. Le groupe Samsung va implanter en France son 3e plus grand centre de recherche mondial dédié à l'intelligence artificielle. Le japonais Fujitsu a lui aussi décidé d'implanter en France son centre européen de recherche dans la même discipline. Il veut agrandir son petit centre actuel pour relocaliser ses chercheurs installés ailleurs en Europe. Le nouveau laboratoire de Samsung est le 3e plus grand du groupe après ceux de Corée et des États-Unis. Il comptera à terme plus d'une centaine de chercheurs installés à Paris.
Et à présent, le bulletin sportif avec Nicolas Pineux. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Alex Song s'entraîne à New York.
En rupture de contrat avec le Rubin Kazan, le club russe, Alexandre Song s'entraînera actuellement avec les New York Red Bulls, la franchise de la MLS. Il ne s'agit toutefois pas d'un essai avec l'équipe new-yorkaise pour le milieu de terrain international camerounais, mais d'une remise en forme en attendant une offre prochaine, quoique l'option de voir l'ancien gunner et blaugrana âgé de 30 ans jouer en MLS n'est pas totalement écartée.
On connaît les affiches de la Ligue des champions féminines en Europe.
L'Olympique lyonnais s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant à Barcelone 1-0 après sa victoire à l'aller. Les Lyonnaises qui affronteront Manchester City pour une place en finale. Manchester City s'est imposé sur le terrain des Suédoises de Linköpings 5-3. Dans l'autre demi-finale, large vainqueur du Slavia de Prague à l'aller 5-0. Wolfsburg a géré son avance au retour en République tchèque avec un match nul 1-1. Les Allemandes affronteront Chelsea en demi-finale. Les Anglaises ont battu Montpellier 3-1.
En NBA, championnat de basket nord-américain, Kevin Durant de retour ce soir.
Et oui, après avoir manqué les 6 derniers matchs de son équipe, Kevin Durant va retrouver les parquets ce jeudi face à Milwaukee. Ça va faire du bien à Golden State qui se passait déjà des services de Stephen Curry touché à la cheville ou encore Klay Thompson au pouce. Et puis Jacques, avec vous, les résultats de la nuit en NBA.
Oui Nicolas, LeBron James a inscrit un record de moins 10 points au cours d'une rencontre consécutive dans un gain de 118-105 des Cavaliers de Cleveland sur les Hornets de Charlotte. Ailleurs, Brooklyn 111, Orlando 104, New York Knicks 101, Philadelphie 118, Minnesota 126, Atlanta 114, LA Clippers 111, Phoenix 99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Jacques Aristide dans votre compagnie. Le Monde aujourd'hui, deuxième partie, avec au programme quatre dossiers, quatre sujets que nous allons tenter de décrypter pour vous. Et d'emblée, nous revenons sur une nouvelle dont nous vous faisions part hier. Il s'agit de l'ouverture en République démocratique du Congo d'une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'opposant Moïse Katumbi. C'est le procureur général de la République, Flory Kabange Numbi, qui l'a annoncé hier. Moïse Katumbi est un candidat déclaré à l'élection présidentielle annoncée pour le 23 décembre prochain en RDC. Il est actuellement en exil en Afrique du Sud, où il a lancé sa plateforme électorale pour ce scrutin qui devra permettre d'organiser le départ du président Joseph Kabila, Kabila à qui la Constitution interdit de briguer un nouveau mandat. Pour la justice congolaise, Moïse Katumbi est en réalité italien. Le pays ne reconnaissant pas la double nationalité, sa candidature serait de fait caduque. Pour une réaction, John Lyndon a joint Olivier Kamitatou, porte-parole de M. Katumbi.
Écoutez, la question est de savoir, est-il éligible comme Congolais? Et pour ça, je vous réponds que Moïse Katumbi est bel et bien Congolais d'origine. Et il n'est pas du tout italien. Et preuve en est, c'est que pendant les 10 dernières années, il a été gouverneur du Katanga. Il a conduit la majorité présidentielle à la victoire électorale au Katanga en 2006 et en 2011. Et jamais ne s'est posé la question de savoir s'il était ou avait été italien. Il est bel et bien congolais.
Monsieur Moïse Katumbi a été condamné par contumace à 36 mois de prison. Est-ce compatible avec une campagne électorale?
Moïse Katumbi a été condamné suite à la menace que sa candidature fait peser sur la majorité présidentielle parce que Moïse Katumbi est un candidat sérieux et le principal adversaire de Joseph Kabila et de sa famille politique. Ils ont donc monté des dossiers. Lors de l'accord de la Saint-Sylvestre, les signataires à cet accord ont demandé aux évêques d'enquêter pour savoir la réalité des faits. Les évêques ont remis leur rapport et ont conclu que Moïse Katumbi était victime d'une mascarade judiciaire. Et donc, dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre, la mise en œuvre intégrale des dispositions de cet accord, comme l'exigent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, est de lever les poursuites contre Moïse Katumbi et lui permettre de rentrer en homme libre au Congo pour y faire campagne, comme en atteste d'ailleurs le Comité des droits de l'homme des Nations Unies de Genève.
Vous parlez de rentrer au Congo pour faire sa campagne. Est-ce que vous confirmez qu'il va rentrer ou c'est juste une intention?
Ce n'est plus une intention. Depuis début mars, Moïse Katumbi a lancé sa plateforme électorale qui regroupe des leaders politiques, des formations politiques extrêmement importantes au Congo. Il est le candidat d'une très grande force politique et à ce titre, il va rentrer au pays, déposer sa candidature et faire son offre politique au peuple congolais.
Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale s'est rendu mardi dernier dans la région anglophone du Sud-Ouest dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire. Paul Atanganji, lui-même anglophone, a déclaré dans une courte intervention à la radio d'État être porteur d'un message de dialogue avec ceux qui savent que le Cameroun est un et indivisible. Les deux régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, qui regroupent 20% de la population camerounaise, sont secouées depuis plus d'un an par une profonde crise politique sur fond de revendications sociales et économiques vis-à-vis de l'élite francophone qui dirige le pays. La situation s'est considérablement dégradée depuis la proclamation unilatérale d'une république indépendante, l'Ambazonie, le 1er octobre dernier, puis l'extradition en janvier au Cameroun de 47 séparatistes anglophones après leur arrestation au Nigeria. Pour une analyse, Nathalie Barge s'est entretenue avec le politologue camerounais Moussa Njoya.
Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, s'inscrit là essentiellement dans la continuité du discours du président Biya le 31 décembre 2017. Donc, M. Atanga Ndji qui a répété ces propos-là. Mais c'est très embarrassant parce que au début de la crise, c'est le même Atanga Ndji qui était allé sur les antennes pour affirmer qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Maintenant, on va dialoguer sur quoi ? Alors que vous avez dit qu'il n'y a pas de problème anglophone.
Alors, s'il y avait dialogue, qui seraient les interlocuteurs ? Le chef du mouvement n'est-il pas incarcéré ?
Le mouvement de revendication anglophone est un mouvement qui a plusieurs leaderships. C'est une panoplie qui va des républicains fédéralistes jusqu'aux sécessionnistes. Vous avez Maître Agbobala qui a été libéré dans le cadre de différentes mesures prises en vue de l'apaisement de la situation. Et vous avez également ceux qui sont détenus officiellement, tels que le Mancho Bibisi, en qui la jeunesse se reconnaît ceux qui ont envahi la rue à Bamenda. Donc vous avez le leadership de la diaspora, les Barita, les Agitabe, etc. Le leadership jeune, sécessionniste national, présent sur le terrain, incarné par Mancho Bibisi, et le leadership fédéraliste républicain, incarné par M. Agbobala, Fontaine et Aya Poladine. Donc je pense que tous ces différents types d'acteurs doivent être invités à la table du dialogue pour qu'on ait des solutions véritablement acceptées de tous.
Si effectivement il y avait des discussions avec toutes ces personnes dont vous avez parlé, ces mouvements, est-ce que l'on n'aurait pas toujours en arrière-fond la ligne dure, finalement, on va dire les Ambazoniens, qui continueraient à créer l'insécurité dans ces régions-là ?
Le problème avec l'Ambazonie aujourd'hui, vous avez maintenant des groupements, on peut dire des délinquants, qui se sont invités à la cause et qui, profitant du trouble sécuritaire, a décidé de s'autodéfinir un agenda on peut qualifier de criminel. Parce que tous les actes auxquels ils se livrent n'ont pas toujours un sens politique et ne sont pas toujours acceptés par le leadership, qu'ils soient sécessionnistes ou fédéralistes. On a vu certains communiqués justement de Marc Barreta ou bien de Tassan qui essayaient de dire comme cela qu'ils n'étaient pas d'accord avec un certain nombre d'agissements, notamment la prise en otage du PCA du DC Board, qui était libéré en principe contre rançon. Ils ont dit qu'eux, ils ne participent pas à ce genre d'actes. C'est le même cas connu Boko Haram au Nigeria. Donc, le problème aujourd'hui, c'est d'appeler les acteurs effectivement identifiés comme leaders d'opinion dans la zone anglophone. Et une fois qu'on a engagé un véritable dialogue avec eux, je me dis qu'avec la collaboration des populations, si elles sentent que leurs aspirations sont effectivement prises en compte et discutées de manière claire, honnête et transparente, pourront effectivement participer à la lutte contre ces délinquants-là qui se sont invités à ces événements.
Le politologue camerounais Moussa Njoya était en ligne de Yaoundé.
Vent de panique chez Facebook suite aux révélations d'utilisation de données de millions d'utilisateurs par la société Cambridge Analytica pour influencer la dernière élection présidentielle américaine. Et en Afrique, à quel point Facebook peut-il influencer les processus politiques ? Peut-on faire confiance à la plateforme de Zuckerberg ? Comment protéger ses données privées ? Quel est l'avenir des réseaux sociaux sur le continent ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin.
Au Mali, les autorités tiennent à montrer au public que la lutte contre le trafic de drogue est en train de porter ses fruits. Mardi dernier, l'Office central des stupéfiants a mis le feu à environ 7 tonnes de drogue d'une valeur marchande de plus d'un milliard de francs CFA. La destruction a eu lieu dans la petite localité de Dio en présence des autres forces engagées dans le combat, à savoir la police et la gendarmerie. Les saisies ont été effectuées ces derniers mois, comprenant toutes sortes de drogues, dont du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne, des psychotropes, mais aussi des centaines de kilos de produits pharmaceutiques contrefaits. Sur place, le reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Le colonel magistrat Adama Tunkara, directeur général de l'OCS.
C'est un souci de transparence. Nous sommes un service public. Nous travaillons au profit des populations. Donc il est normal que lorsque nous menons des actions à leur profit, nous puissions les en informer. Nous avons 8 tonnes de cannabis ici, 5 kilos de cocaïne, 1 kilo demi d'héroïne et 500 kilos de produits psychotropes.
Le fait de brûler cette quantité de drogue repose sur l'article 136 de la loi du 28 juillet. Cet article prévoit que la destruction distribution des produits se fait en présence des représentants de l'autorité judiciaire et les membres de la commission de destruction. Yuba Alfouseni Diop, substitut du procureur en charge du pôle judiciaire spécialisé.
Chaque année, pratiquement chaque fois qu'on a une saisie énorme, on procède à l'incinération. Le fondement, c'est la loi portant répression du terrorisme et financement, blanchiment des capitaux au Mali. Chaque jour, on est confronté à des questions, savoir où vont ces saisies qu'on observe tous les jours. C'est pourquoi on évite la population lors des incinérations.
Youssouf Bakary Traoré, premier adjoint au préfet de Kati.
Ceci me réconforte parce que ça prouve davantage que l'État est service socialisé, de mettre autant hors d'état de nuire. C'est jamais intentionné de venir s'appeler chez nous, que nous ne connaissons pas. Davantage, on constate que la jeunesse s'adonne à ce produit. Et si aussi nous voyons qu'un tel tournage est en train d'être incinéré ici, il y a l'État qui se prend ici, on peut être réconforté. Encourager davantage les services techniques, les services de sécurité à exceller dans ce sens.
Cette incinération est la deuxième du genre organisée par l'Office central des stupéfiants et les questions environnementales ont été prises en compte. Daouda Kane, maire de la commune rurale de Diogar.
Grâce à la préfecture que la mairie a choisi cette site-là pour donner avec ces gens-là. Donc nous, les autorités, on est là pour soutenir ces actes-là aussi. Évitons ces actes-là. Vraiment ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu vois, si on est à la circulation, il y a beaucoup de jeunes qui sont des fous et des folles. Éviter ces choses-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la santé vraiment.
Certains de ces trafiquants ont été arrêtés à l'aéroport international de Bamako-Sinou par l'Office central des stupéfiants et la douane malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Les Libériens aux États-Unis vont perdre leur statut protégé selon une annonce faite par l'administration Trump. Depuis 1991, les ressortissants du Libéria, alors en guerre civile, bénéficient d'un statut de protection temporaire qui permet de travailler légalement dans ce pays sans titre de séjour. Ce dispositif empêchait donc l'expulsion des immigrés libériens, mais dans le cadre d'un durcissement de la politique migratoire américaine, cette protection ne sera pas reconduite après son expiration le 31 mars. Pour un décryptage, Abdourahman Nadia a contacté le militant des droits des migrants basé aux États-Unis, Bakary Tandja.
C'est une atteinte très grave au principe humanitaire parce que c'est une communauté qui encore mérite cette protection et parce que l'argument avancé par le gouvernement est que actuellement la situation s'est normalisée au Libéria, ce qui n'est pas du tout correct.
La guerre civile est quand même terminée depuis longtemps au Libéria et c'est un pays qui a organisé des élections sans problème récemment.
Oui, en fait, nous devons reconnaître les progrès accomplis, les acquis qui sont actuellement une réalité. Ces acquis doivent être consolidés et non créer une situation de crise qui allait compromettre. Bon, nous savons que le fait d'organiser des élections ou de reconstruire un pays après une guerre civile aussi dévastatrice, bon, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus qui est très long. La communauté qui est actuellement présente ici aux États-Unis peut y contribuer énormément. Premièrement, ils travaillent ici, ils envoient de l'argent, ils supportent leur famille. C'est un avantage considérable. Alors que si, par exemple, on devait obliger ces personnes à retourner dans un pays qui n'a pas la capacité de les accueillir, ça va créer une situation de crise et ça va créer un manque considérable parce que les contributions qu'ils faisaient pendant qu'ils travaillaient ici ne seront plus disponibles au pays. Et en plus, sur le plan purement humanitaire, ce sont des personnes qui ont travaillé ici pendant plusieurs années. Ils ont organisé leur vie ici.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce qu'il y a des moyens de recours possibles, surtout au niveau individuel?
La communauté africaine et ses alliés et tous les défenseurs des droits de l'homme ou des droits des immigrants vont continuer à se mobiliser. Et par ailleurs, c'est très important également au niveau individuel que les gens essaient de se mettre dans les dispositions pour se mettre à l'abri de certaines surprises.
Bakary Tandja, militant des droits des migrants, joint à New York. Oui, vous l'avez compris, Le Monde aujourd'hui prend fin ici à la réalisation Anne Albertson. Anne qui était également avec nous pour la présentation du journal, à la console John Ellison. Un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin encore une fois à Washington. C'était Jacques Aristide. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de jeudi sur VOA Afrique. Take care.